Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Éteindre la lumière, manger moins, voire plus du tout de produits d'origine animale, prendre des bains plutôt que des douches et trier ses déchets. Ces actions vous parlent probablement, elles sont de celles qu'on nous enseigne, qu'on nous présente comme vertueuses pour l'environnement. Mais à elles seules, est-ce qu'elles suffisent? Et dans le cas contraire, par quoi les accompagner pour maximiser son impact? Je ne sais pas si elle sera d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est l'angle choisi par Béné dans son livre « La révolution du potager, manuel d'écologie individuelle et collective ». Militante écologiste, féministe et libertaire, elle transmet ses idées notamment à travers les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Et je suis très heureuse de la recevoir sur Activiste aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son livre donc, mais également de ses engagements au sens large. Bonjour Béné.
Bonjour Esther, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Alors, dans l'introduction de ton livre, tu expliques d'où tu viens et justement, sur Activiste, on aime bien revenir aux origines de l'engagement de nos invités. En leur demandant quelle fut leur première indignation. Toi, est-ce que tu te rappelles la première fois où tu t'es dit « Ok, ça, c'est pas juste
» C'est une très vaste question. Donc je suis désolée de commencer le podcast comme ça, mais je pense que c'est la mort de mon chien quand j'étais petite. Ça m'a fait probablement découvrir la sensibilité animale et puis l'affection qu'on peut avoir pour les animaux, etc. Donc je suis pas hyper sûr que c'est vraiment révélé quelque chose, enfin une indignation chez moi, mais en tout cas je pense que ça fait partie un petit peu du commencement de mon amour pour les animaux.
En même temps, si tu parles de la mort de ton chien, moi je le vois par exemple sur ton Instagram et je crois que tu l'as déjà dit, que justement tu avais une sensibilité particulière avec les animaux, et j'ai l'impression que par exemple ça se retrouve dans ton livre en fait, avec... ce discours justement sur l'antispécisme et ce genre de choses.
Du coup, c'est vraiment un message que j'essaye de faire passer dans le livre. Alors, au-delà de l'antispécisme, je pense que c'est plus une question d'anthropocentrisme, en fait. Se dire que l'humain n'est pas forcément supérieur au reste. Et du coup, que les animaux, dans toute leur sensibilité et leur diversité, ont le droit d'exister et, autant que nous. Et en fait, ils méritent qu'on en prenne soin. D'autant plus que ils n'ont pas forcément le droit à la parole, ils peuvent pas s'exprimer, etc., comme nous on peut le faire, donc c'est important que des humains et humaines puissent potentiellement parler à leur place, quoi.
Complètement. Moi, je te connais justement d'abord pour tes engagements en matière d'environnement et au-delà donc de cette prise de conscience de la sensibilité des animaux, est-ce que tu arrives à dater un peu le moment où tu as pris conscience du danger peut-être qui pesait sur l'avenir de cette planète et de ses habitants?
Alors, je pense pas véritablement avoir eu de déclic sur l'écologie, puisque mes parents étaient relativement écolos. Enfin, ils m'ont toujours éduqué dans un tri des déchets très rigoureux, le compost, etc. J'ai toujours vu mon père avoir un potager, donc... Donc voilà, je suis sensibilisée à ce genre de sujet depuis que je suis toute petite. Après, il y a eu probablement des phases de conscientisation, comme on dit, qui sont j'ai lu notamment des livres sur le végétarisme, c'est ce que j'explique dans mon livre, notamment Nos steaks d'Emeric Caron, Planète vegan d'Ophélie Véron, etc., qui m'ont vraiment fait découvrir la végétalisation de son alimentation, et puis l'importance de végétaliser son alimentation, l'antispécisme, etc. J'ai eu une phase aussi collapso, comme je pense pas mal d'écolos. J'ai lu tout ce qui était livre de Pablo Servigne, etc. Ça m'a pas forcément fait beaucoup de bien, et je recommande pas non plus forcément ce genre de lecture à tout le monde, en fait, parce que je pense qu'on n'a pas besoin forcément de s'infliger ça pour se rendre compte du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Donc, j'ai eu pas mal de phases, et puis jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets.
Sur la collapsologie, ça m'intéresse quand même d'avoir son avis sur comment t'en es revenu, entre guillemets. Peut-être que je me trompe de terme, mais j'ai l'impression que voilà, tu parles d'un passage dans cette phase-là. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens que je connais autour de moi et qui sont rentrés dans cette phase de penser à l'effondrement, etc., ils n'ont pas l'impression que ça ne va pas arriver. Peut-être juste qu'ils l'appréhendent différemment maintenant que lorsqu'ils l'ont conscientisé. Mais voilà, je ne sais pas toi où tu en es par rapport à ce sujet-là en ce moment.
En fait, je trouve que la collapsologie, alors on peut ne pas être d'accord du tout avec moi, hein, je conçois très bien tout ça, mais pour moi la collapsologie c'est un peu une vision dépolitisée de l'écologie, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a un effondrement annoncé, on ne sait pas quand, etc., avec des conséquences atroces, il y a toute une un schéma qui a été publié sur une phase de deuil et avec des différentes phases psychologiques qu'on traverse quand on se rend compte de l'effondrement de la biodiversité, etc. Et je suis pas persuadée que ce soit une très bonne approche en fait pour donner envie aux gens d'agir, d'autant plus que en fait l'effondrement il est déjà en cours pour des millions de personnes. Donc à se focaliser sur un effondrement futur, en fait on oublie que l'effondrement de la biodiversité et puis le dérèglement climatique a déjà lieu depuis longtemps et qu'il y a déjà des millions de victimes qui en souffrent, donc que ça mérite de se battre ici et maintenant plutôt que de supposer que l'effondrement va arriver et que il faut favoriser le repli sur soi et puis le survivalisme éventuellement, toutes ces choses là qui sont pas forcément je pense pertinentes et qui oublient le côté politique de tout ça, des causes du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité qui sont le capitalisme et toutes les oppressions en fait.
Alors justement, ensuite, qu'est-ce qui te décide à agir, toi, par exemple en prenant la parole sur les réseaux sociaux, comme tu le fais? Est-ce que ça, c'était ta première phase d'action, ou au contraire, est-ce que ça venait après un premier cheminement déjà?
C'est une bonne question. peut-être que c'est mon côté un peu prof. Je sais pas, j'aime bien transmettre des choses et je me dis que j'ai pris conscience de pas mal de choses et que j'ai le privilège de pouvoir lire ou m'informer, écouter des podcasts, ce qui n'est pas toujours possible pour pas mal de gens en fait, qui n'ont pas forcément le temps ou l'espace mental suffisant pour le faire. J'ai le privilège d'avoir pu m'informer sur les thématiques de l'écologie et pas que. Du coup, je me dis que, s'éduquer, ça demande du temps, de l'énergie, etc. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Donc, je me dis que ça a du sens, en fait, pour moi, de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'essaye de mettre en place, mes expérimentations à échelle individuelle, mon cheminement aussi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent s'y retrouver ou pas du tout, mais en tout cas, je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Si je peux aider les gens à aller peut-être plus vite et plus loin, c'est cool aussi, quoi. Donc pourquoi je partage un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux.
Quand tu t'es lancée, tu l'as fait vraiment consciemment en te disant « Ok, maintenant je vais parler écologie sur les réseaux sociaux » ou est-ce que c'est arrivé, parce que moi je te suis je pense depuis un an ou deux peut-être, mais ça fait pas depuis le début en tout cas, et... Je sais qu'il y a certaines personnes qui partent par exemple d'un compte personnel et qui au fur et à mesure en font un compte militant et de vulgarisation, et d'autres qui décident vraiment de créer leur compte pour transmettre. Toi, tu étais dans quelle démarche quand tu...
Alors moi, c'était un compte personnel. Hein. Je pense qu'il y a des reliquats de ma vie d'avant, pleine de voyages en avion, etc. sur mon compte. Après, j'en ai pas honte. Hein. Ça fait partie de qui je suis et de mon cheminement aussi. Donc, enfin voilà, j'assume un peu. Enfin, j'ai pas le choix de toute façon. Il faut assumer ce qu'on a fait avant. Donc, ouais, moi, c'était un compte personnel. D'ailleurs, mon pseudo est complètement daté. Enfin, Mademoiselle Béné, ça n'a aucun sens. Enfin, voilà. Donc, mais bon, après, bah, c'est qui je suis. Et puis, du coup, je le laisse comme ça. Parce que voilà, j'ai pas à en avoir honte.
Je comprends. C'est intéressant, justement, ce discours que tu tiens sur le fait que, bah voilà, t'as évolué. T'étais pas parfaite avant. D'ailleurs, tu l'es toujours pas. Enfin, c'est aussi un truc que tu répètes dans ton livre. Et ça va pas mal à l'encontre d'une forme d'injonction à la pureté et à ne... Enfin, voilà, à être toujours au maximum de son action individuelle pour protéger l'environnement qu'il peut y avoir un peu parfois sur les réseaux sociaux ou ailleurs.
Ouais, alors je peux avoir aussi un petit côté comme ça parce que c'est vrai que, enfin voilà, on considère, enfin je pense que quand on est militant ou militante, on considère que ça va jamais assez vite ou jamais assez loin. Donc je peux, enfin j'ai pu aussi tenir des propos hyper culpabilisants et tout, mais maintenant j'essaye d'éviter au maximum, même si voilà, ça peut revenir de temps en temps. Mais c'est vrai que, enfin sur les injonctions à la pureté, moi c'est quelque chose qui me fatigue un peu, en fait, parce que je considère que ça décourage, ça peut décourager beaucoup de gens à agir et à se dire que ces personnes sont jamais suffisamment bien ou jamais suffisamment conscientisées pour, voilà, pour agir collectivement ou même agir à titre individuel. Enfin, voilà, moi, je considère qu'on vient tous et toutes de quelque part et que les militants et militantes, ils sont pas forcément... devenus militants comme ça, enfin, et ils n'ont pas toujours tout su sur tous les sujets non plus, et puis ils continuent à ne pas savoir plein de choses non plus. Donc je pense que c'est important de savoir d'où on vient et de savoir qu'on est en permanence en évolution sur plein de sujets et que la déconstruction, en fait, elle n'est jamais totale. Donc je pense que c'est un peu hypocrite d'être, de faire des injonctions à la pureté. Surtout que j'ai l'impression que ça touche la sphère militante en premier lieu, et qu'en fait, bah, se tirer dans les pattes en permanence entre militants et militantes, je trouve pas que ce soit très très productif, quoi. Enfin ouais, ça c'est vraiment mon avis, peut-être qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais ouais, j'en ai souffert et je peux en souffrir encore. Enfin moi, ça me pose des problèmes des fois sur... Enfin là, j'ai une tendance à m'auto-censurer, alors qu'il se remarque pas forcément parce que voilà, j'écris quand même pas mal, etc., sur plein de sujets de manière assez radicale. Mais il y a des fois où j'hésite à utiliser certains termes ou à formuler mes phrases d'une certaine manière ou à évoquer tel ou tel sujet parce que, en fait, j'ai peur que mon propre camp m'attaque, quoi. Donc, je pense pas que ce soit très sain et je pense que c'est important que les militants et militantes fassent preuve aussi d'un peu d'humilité et de se dire que, et qu'ils se disent, je suis pas parfaite et je le serai jamais. Et en fait, je peux oppresser aussi d'une certaine manière quand je fais ça. Et que, en fait, on peut être très bien anarchiste ou militant sur certains sujets et puis oppresser des personnes sur d'autres, quoi. Donc, voilà un petit peu.
Est-ce que c'est ça qui t'a mené à avoir vraiment ce discours sur justement l'écologie individuelle et collective ? C'est carrément dans le titre, voilà, de ton livre. Donc ouais, est-ce que c'est cette prise de conscience-là qui est que tu ne pourras pas être parfaite, tu ne pourras jamais atteindre le zéro déchet parfait ou une forme de pureté, comme on le disait à l'instant, qui t'amène à te dire en même temps... Est-ce que ça suffit de faire ça à l'échelle individuelle ? Enfin, est-ce qu'il vaut mieux que je sois complètement parfaite à l'échelle individuelle ou que j'utilise aussi une partie de mon temps, quitte à ne pas être parfaite au niveau individuel, pour m'investir dans des espaces plus collectifs, de lutte plus collective ?
Déjà, je pense que la perfection, ça n'existe pas, quel que soit le sujet. Donc, et encore moins sur l'écologie, où de toute façon, on vit dans un système qui nous dépasse complètement, et un système qui est ouvertement capitaliste, avec un système de consommation qui est complètement inadapté, avec une culture aussi de la consommation des produits d'origine animale qui nous dépasse complètement. Donc, je pense que... Je pense qu'il faut, il faut un peu revenir de ce, de voilà, du bocal de déchets annuel qui peut en plus être hyper culpabilisant pour plein de gens qui n'ont pas forcément les ressources ou les capacités ou le temps de faire du zéro déchet à 100%. Enfin, je pense à notamment quand on a des enfants, qu'on utilise des couches, enfin, etc. Enfin, c'est juste pas possible pour énormément de gens. Et moi, en fait, j'invite plus les gens à se dire, enfin, à sortir un petit peu de cette volonté de perfection individuelle et qu'ils utilisent leur temps et leur énergie à des choses qui soient plus productives à échelle collective, en fait, et qui vont avoir plus d'impact écologiquement ou socialement, peu importe les oppressions ou, enfin, qu'on prend en compte. Mais ouais, j'invite plus les gens à se saisir des pistes d'action collective autour d'elle, parce qu'en fait, bah, en plus, ça émancipe. Enfin, non seulement c'est utile, ça a plus de sens, et en plus, ça émancipe beaucoup. Enfin, voilà, on rencontre plein de gens, on se sent vraiment utile à une autre échelle. Donc, c'est hyper important, de prendre conscience de tout ça. Enfin, les ordres de grandeur, pour moi, c'est hyper important, en fait, de savoir, voilà, bah, telle échelle, enfin, mon zéro déchet, il correspond, enfin, même si les émissions de CO2, c'est pas le critère absolu en écologie, mais voilà, le zéro déchet, c'est je sais plus quelle part d'émissions de CO2 dans mon bilan carbone individuel. Bah, à côté de ça, enfin, la consommation de produits d'origine animale ou le fait de prendre l'avion ou la voiture très régulièrement, bah, ça n'a aucun rapport, quoi. Donc, j'invite plus les gens à se saisir des ordres de grandeur et à se dire, bah voilà, tout seul ou toute seule, on trie ses déchets et on peut être végétarien, etc. Et c'est déjà cool. Mais à échelle collective, en fait, bah, moi, je me suis rendu compte qu'il y a quelques dizaines, on pouvait se battre contre un projet de zone industrielle, par exemple. Et, enfin, je pense que c'est important de se rendre compte de ça. Enfin, l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment un exemple parlant, c'est que bah, toute seule, moi, je faisais du zéro déchet, et puis j'étais végétarienne, et je prenais pas l'avion, et j'étais contente. Et ça me permettait d'obtenir une cohérence, en fait, qui me plaît, et que j'essaye de continuer à avoir. Mais par contre, ouais, à plusieurs dizaines, en rejoignant des collectifs, j'arrive à faire des choses vachement plus importante et à m'émanciper en même temps, donc c'est quand même vachement plus constructif, quoi.
On va revenir après sur cette lutte contre le projet de zone industrielle que tu abordes à l'instant, mais juste pour finir sur ce sujet de l'écologie individuelle et collective, c'est quoi pour toi les dérives possibles si on fait que l'un ou que l'autre?
Alors, je pense pas qu'il y ait de dérive à faire que de l'engagement collectif. Enfin, en tout cas, j'en vois pas trop, a priori. Peut-être que je peux me tromper. Après, je sais que... Enfin, puis on n'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Je pense que quand on commence à s'engager, forcément, on fait un petit peu d'engagement individuel avant de commencer à faire de l'engagement collectif. Après, concernant la dérive de l'écologie individuelle, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le danger du repli sur soi. En fait, de se dire, bah, moi, enfin, voilà, j'ai fait ma part, je trie mes déchets, enfin, ou j'en produis très peu, je suis végétarienne ou végane et je prends pas l'avion, donc, pourquoi désolé pour le terme, mais pourquoi on viendrait me faire chier alors que, enfin, voilà, moi, je fais tout bien, quoi. Et je pense qu'en fait, il faut aller au-delà de ça parce qu'en fait, on vit pas tout seul sur cette planète, on vit à plusieurs milliards et que forcément, même si on est potentiellement parfait, même si ça n'existe pas à échelle individuelle, ben en fait, le système dans lequel on vit, il a des conséquences sur des milliards de personnes. Et en fait, l'engagement collectif, ça permet de lutter contre les conséquences de ce système contre le monde humain et non humain, quoi.
Est-ce que c'est la volonté de lier les deux, justement, qui a fait que tu t'es dit « Ok, je vais écrire ce livre, La Révolution du Potager », ou il y a d'autres raisons, et dans ce cas, lesquelles ?
Alors, sur l'écriture du livre, moi, j'ai été sollicitée par la maison d'édition La Plage pour écrire un livre sur le potager, enfin, sur la permaculture, et puis donner des idées de recettes végétariennes. Après, j'ai essayé de lui donner une dimension plus politique et plus systémique, en fait, pour que les gens puissent se saisir de pistes d'action à la fois individuelles et collectives.
Ok. Et pour toi, c'était cohérent justement de présenter tes idées sous cette forme en mêlant plein de formats différents, parce que du coup, on n'a pas trop dit ce qu'il y avait dans ton livre, mais il y a voilà, des conseils pour jardiner quand on débute, ou même des trucs... En vrai, je pense que moi, j'ai un papa qui jardine beaucoup et ces derniers mois, je l'ai beaucoup aidé et il y a quand même plein de choses que j'étais là genre « Ah ouais, j'avais pas pensé !» Et il y a aussi des recettes, il y a des portraits, enfin, t'as vraiment mêlé plein de formes différentes. C'était évident pour toi de faire comme ça ?
Bah, je pense que ça me correspond parce que je touche un peu à tout, entre guillemets, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et du coup, je me suis dit le meilleur moyen d'intéresser les gens à l'écologie, c'est de proposer un format dans lequel chacun et chacune puisse puiser, en fait, avec qu'on ait une sensibilité pour le potager ou plus l'alimentation et la cuisine ou plein de trucs en fait, ou les cosmétiques. Je donne pas beaucoup de recettes de cosmétiques, mais voilà, j'essaye de montrer qu'on peut s'approprier le monde végétal et animal entre guillemets de plein de manières différentes, et que ça a du sens de les intégrer dans une vision systémique de l'écologie.
Je voudrais qu'on détaille un peu plus sur certains des sujets du coup que tu abordes dans le livre. Donc par exemple, en quoi cultiver un potager, c'est un peu lutter pour toi ?
C'est une vaste question. Pour moi, ça me permet de m'approprier mon alimentation, de savoir comment ça pousse, de me rendre compte de quel temps et quelles ressources ça demande en fait de cultiver sa nourriture. Du coup, d'avoir un autre point de vue sur le monde agricole, sur ce qu'on met dans nos assiettes aussi, de se dire si j'ai des haricots dans mon assiette en allant les acheter au supermarché, ça paraît hyper simple, mais en fait les cultiver, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps et d'énergie, donc ça permet d'avoir un autre regard en fait sur ce qu'on consomme. Donc je trouve que c'est important, surtout qu'on est dans une culture où en fait tout s'achète hyper facilement, etc. donc je pense que c'est important de prendre ça en compte. Cultiver, c'est lutter. Dans un autre registre, il y a pas mal de jardins donc partagés, familiaux, etc., qui existent en France et qui permettent à des personnes avec pas forcément beaucoup de ressources, etc., de pouvoir se nourrir. Et donc, que ce soit en ville ou ailleurs. Donc, je pense que c'est important de replacer aussi le jardinage dans un contexte systémique, encore une fois, et politique. Et puis en plus, ces jardins, que ce soit à Aubervilliers, à Saint-Nazaire, dans plein de villes en France aujourd'hui, ils sont en danger, avec la bétonisation, etc. Donc je pense que c'est important de se rendre compte que le jardinage peut être politique, et que en cultivant, en se réappropriant son alimentation, etc., on a un impact qui est concret, et qu'on agit plus ou moins radicalement en fait de manière plus ou moins radicalement sur l'écologie.
Là, je m'aperçois qu'en fait, je te pose une question sur ta pratique et finalement, tu le lis quand même avec un sujet de lutte collective, et c'est ça qui est hyper intéressant dans ton discours à mes yeux. Je me demandais quand est-ce que tu t'es engagée pour la première fois dans une lutte collective, justement ?
J'ai commencé il y a quelques années dans une asso, sur les jardins partagés. Mais du coup je l'ai quitté parce que pour moi c'était pas assez radical. En fait j'avais vraiment besoin de me dire, c'est pas du tout méprisant hein, parce que il en faut vraiment pour tout le monde et pour tous les, pour tout le monde, et pour il y a plein de manières d'agir différentes, et c'est hyper important qu'il y ait des assos qui se mobilisent pour plein de sujets, mais moi je m'y retrouvais plus forcément, et du coup j'ai trouvé d'autres manières de lutter qui me correspondaient plus, donc c'est pour ça que j'ai quitté un peu le modèle associatif. Après, j'ai commencé à agir au sein de collectifs féministes, je pense, il y a deux ans. À faire des collages, les collages féministes qu'on voit sur les murs, etc. Donc j'ai commencé un petit peu par là. J'ai fait une action aussi de blocage du cinéma à Saint-Nazaire quand Roman Polanski était nominé au César. Quand Roman Polanski avait sorti son film, je sais même plus comment il s'appelle, ça vaut pas beaucoup, ça vaut pas le coup de parler de lui.
Mais, j'approuve ce message.
On avait fait un blocage du cinéma à Saint-Nazaire, et en fait je me suis rendu compte que c'était une manière de d'agir qui me correspondait à fond, enfin de que c'était, enfin qu'il y avait un impact médiatique incroyable et que ça permettait de faire passer des messages de manière hyper incisive et forte et radicale très rapidement. Et du coup je me suis dit waouh, c'est génial, enfin l'action directe, c'est vraiment un truc que je trouve super cool. Et puis puis après j'ai été à une réunion d'information sur le projet du carnet, le projet industriel du carnet, qui était tenu par une personne en qui j'ai hyper confiance et que je connaissais un tout petit peu de la lutte contre le surf park de Saint-Père-en-Ré. Donc je sais pas si t'en as entendu parler, mais c'était un projet de surf park à 10 km de la mer, surf park artificiel qui allait bétonner je crois 40 hectares de zone agricole, etc. Et du coup cette personne a tenu une réunion d'information sur le projet du carnet et je me suis dit waouh, mais c'est, enfin je veux en être en fait, enfin c'est pas possible que je laisse d'autres personnes agir contre ce projet et que moi j'en sois pas quoi, enfin en plus la personne qui tenait la réunion d'information, enfin voilà, j'avais hyper confiance en elle et envers ses propos que je trouvais très très juste, etc. Du coup je me suis dit, si j'ai envie de m'investir sur l'écologie d'un point de vue radical, c'est vraiment avec ce genre de personne que je veux être. Et du coup voilà comment je me suis engagée à échelle collective au niveau de l'écologie.
Alors ce projet du carnet, justement, je voulais qu'on en parle un peu parce que c'est vrai que, en tout cas à travers tes réseaux sociaux, t'en as beaucoup parlé ces derniers mois. Moi, c'est clairement à travers toi que j'ai pris connaissance de cette lutte. Est-ce que tu peux expliquer déjà contre quoi vous luttiez ?
Alors on lutte toujours. On aimerait bien que la lutte soit terminée, mais c'est malheureusement pas le cas. Donc le projet de zone industrielle du Carnet, c'est un projet qui envisage de bétonner 110 hectares de zone naturelle en bord de Loire. Et ces 110 hectares de zone naturelle comprennent 51 hectares de zone humide. Donc avec tout le rôle qu'on connaît sur les zones humides et les zones naturelles, etc., surtout en période de pandémie où on sait que l'artificialisation, ça, c'est une cause directe des zoonoses et donc des pandémies qu'on vit actuellement. Donc sur la zone naturelle du Carnet, il y a aussi 116 espèces protégées. Enfin, le projet, il nécessiterait 550 000 m3 de dragage, de remblai pour surélever le site de 50 cm puisqu'il est en zone inondable, sachant que c'est que la moitié de ce remblai serait issue du dragage de la Loire, donc directement des sédiments de la Loire. Le projet, il s'inscrit dans une liste de 78 projets clés en main proposés par Macron aux industriels pour réindustrialiser la France. Et puis en fait, c'est juste tout ce qu'il faut pas faire en ce moment et plus jamais en fait. Enfin, c'est vraiment une écologie, une écologie qu'on dit industrielle, parce que alors, enfin, le projet en fait, c'est un projet de zone industrielle dédiée aux écotechnologies. Donc ça n'a d'éco que le nom, ça n'a rien d'écologique du tout. C'est plus économique que écologique d'ailleurs. Enfin, du coup, le projet, il bénéficie de multiples dérogations au droit environnemental, puisque les 78 projets clés en main portés par Macron, en fait, c'est pour bénéficier de dérogations environnementales de façon à ce qu'ils soient construits plus vite. Donc, en fait, le droit existant déjà qu'il est bafoué en permanence, mais en plus, là, on y attribue ostensiblement de multiples dérogations pour installer des projets industriels qui n'ont aucun sens dans le contexte écologique dans lequel on est actuellement, quoi.
On sait un peu justement quels sont les projets qui voulaient s'installer dans cette zone ?
C'est ça qui est assez ironique, c'est que pour le moment, il n'y a aucune entreprise qui s'est positionnée sur le projet du carnet. Donc ce qu'ils prévoient de faire, en fait, c'est d'artificialiser les 110 hectares de zone naturelle et puis après de dire aux entreprises de venir. Donc ça n'a strictement aucun sens. Enfin, déjà que le projet n'a pas de sens en lui-même, mais en plus le fait d'installer des projets clés en main en artificialisant le sol et en disant « ah bah voilà, maintenant vous pouvez vous implanter », en fait ça n'a aucun sens. Et sachant que le projet existe depuis plus de 10 ans et qu'il n'y a aucune entreprise qui s'est manifestée, à notre connaissance, sur le projet de zone industrielle du Carnet, quoi. Donc ça veut dire qu'on va artificialiser 110 hectares de zone naturelle pour que potentiellement il n'y ait aucune entreprise qui s'installe après.
Je voudrais, si c'est possible, qu'on soit un peu précis sur quels sont les dangers en fait de l'artificialisation des sols et de l'artificialisation d'une zone comme celle-ci. Alors là, on le comprend bien, il y a beaucoup d'espèces protégées, mais au-delà, c'est quoi les enjeux ?
Bah en fait, quand on artificialise les sols, on détruit toute la vie de manière définitive des sols, sachant que je crois qu'il y a 70% de la biomasse qui est détenue dans le sol. En fait, on détruit ouvertement toute vie dans le sol et on empêche toutes les espèces de pouvoir y habiter après. Et puis, artificialiser, du coup, ça permet de faire avancer le béton contre face à toutes les zones naturelles et à toutes les espèces animales et végétales, etc. Et du coup, j'essaye de retrouver mes mots. Les espèces, elles perdent naturellement leur habitat, en fait, et elles se retrouvent à vivre de plus en plus avec les humains et du coup à transmettre de plus en plus de maladies, etc. Et c'est pour ça que je parlais des zoonoses de tout à l'heure. Donc c'est les zoonoses, ce sont des maladies qui se transmettent des animaux aux humains. Et en fait, c'est notamment la raison de développement de pandémies comme le coronavirus, par exemple.
Moi, j'ai regardé un petit peu le projet, quelle tête il avait. J'ai cherché un peu ce qui se disait dessus et j'ai vu que, par exemple, le grand port de Nantes-Saint-Nazaire donc, avait proposé de faire un nouvel inventaire des espèces qui peuplent la zone, etc. Pourquoi, selon toi, est-ce que c'est des garanties qui ne fonctionnent pas, en fait, qui ne sont pas suffisantes ?
Déjà parce que ce serait les analyses qui seraient faites par l'État. Et on voit très bien que déjà l'État est capable de faire des dérogations au droit environnemental de manière ostensible, avec les projets clés en main. Donc on se dit que potentiellement, si les écologues ou les naturalistes qui viennent faire des analyses sont mandatés par l'État, on a de gros doutes sur le fait que ces analyses soient objectives. Et puis en plus, c'est une vision très anthropocentrique de l'écologie, en fait. Je vois pas pourquoi on se dirait il y a pas 116 espèces protégées, mais il y en a plus que 50 ou il y en a plus que 30, et du coup c'est ok, on va pouvoir bétonner, en fait. L'écologie, ça fonctionne pas du tout comme ça. L'écologie, c'est respecter l'intégralité du monde animal et l'intégralité du monde végétal et les ressources naturelles, entre guillemets, et puis éviter qu'elles soient détruites, peu importe leur existence, en fait. Donc, pour moi, le fait de refaire des analyses, etc., ça va juste dans le sens du greenwashing et puis du capitalisme vert, quoi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont venir faire des analyses et puis qui vont dire « Ah ben non, en fait, c'est bon, il n'y a plus que tant d'espèces, donc on va quand même artificialiser les 110 hectares de zones naturelles. » Ça n'a aucun sens, d'autant plus que le site, il est clairement en zone inondable et que, en fait, construire une zone industrielle en zone inondable, c'est une aberration écologique totale, quoi.
Moi, avec tout ce que tu racontes là, vraiment, ça me laisse perplexe que le projet soit maintenu. Donc, je me demande quels sont les intérêts, quels sont les arguments de ces défenseurs pour le maintenir, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est l'économie ?
Alors, c'est toujours une question d'économie et l'argument qui est très souvent utilisé, c'est l'emploi, la création d'emplois. Mais après, faut voir quels emplois ça crée, en fait, ce genre de projet. Puis, déjà, on crée pas des emplois à tout prix. Surtout quand ça contribue à artificialiser des zones naturelles ou ça n'a aucun sens. Et puis, l'emploi dans ce genre de zone industrielle, c'est soit des emplois qui sont hyper spécialisés, soit des emplois qui vont être précaires parce que ça va être des travailleurs détachés, etc. Enfin, là, j'habite à côté de Saint-Nazaire et c'est déjà le cas dans les zones industrielles qui sont implantées dans l'estuaire de la Loire. Donc en fait, l'emploi, c'est pas du tout un argument et ça en sera jamais un pour justifier la destruction d'espaces naturels. Et puis sur l'économie, on est encore dans une écologie très libérale, en se disant que on peut toujours détruire des zones naturelles ou des espèces protégées au nom de l'économie, alors qu'en fait on sait très bien et tous les scientifiques sont d'accord pour dire que, enfin pas tous, mais la plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que le modèle dans lequel on vit aujourd'hui n'est plus tenable. Donc le modèle de la croissance à tout prix, etc., c'est plus viable, en fait. Donc il faut sortir de tout ça, et le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'arrêter de bétonner tout et n'importe quoi.
Alors, en septembre dernier, justement dans le cadre de cette lutte, il y a un groupe de personnes qui s'est organisé pour occuper la zone, pour en faire donc une zone à défendre. Est-ce que tu peux expliquer ce qui les a poussés à le faire ? Et bien que toi, tu n'aies pas vécu précisément sur la ZAD, c'est un espace que tu as fréquenté régulièrement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment s'y organisait la vie, l'action ?
C'est une question très compliquée. Déjà, pour les raisons pour lesquelles les militants et militantes sont venus occuper cette zone, moi, je ne peux pas parler en leur nom. Mais enfin, d'après ce que j'ai retiré un petit peu des échanges que j'ai tenus avec certaines personnes sur place, il y en a qui se retrouvaient pas du tout dans le modèle actuel, et pour qui les ZAD, en fait, ça correspond à la seule manière de lutter concrètement contre les projets destructeurs aujourd'hui. Donc, enfin, voilà, quand le droit environnemental n'est pas respecté et puis que le projet... Enfin, il faut savoir que la ZAD a empêché la poursuite des travaux, que les travaux avaient commencé. Donc, quand les travaux ont lieu, ont déjà commencé, la seule manière de lutter concrètement contre le projet, c'est d'occuper l'espace de manière légale ou illégale. Alors, à la ZAD du Carnet, c'est illégal, de façon à implanter une résistance physique et matérielle, en fait, à implanter des barricades, à construire des lieux de vie et à ce qu'il y ait tout le temps du monde sur place, de façon à ce que le projet ne puisse plus avoir lieu, en fait.
Et du coup, dans la manière dont sur place ça s'organisait, on décrit souvent les ZAD un peu comme ces laboratoires d'expérimentation, quelque part. D'expérimentation de quoi ? Est-ce que tu pourrais expliquer un peu pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une ZAD, par exemple ?
Alors, c'est vraiment mon point de vue, hein. Je parle vraiment en mon nom. Mais pour moi, la ZAD, c'était à la fois un lieu de lutte, donc qui empêchait la poursuite des travaux et puis qui a permis un éclairage médiatique national sur le projet du Carnet, éclairage que nous, avec le collectif Stop Carnet, on n'avait quasiment pas obtenu. Donc c'est grâce à la ZAD qu'il y a eu un éclairage médiatique sur le projet et que le moratoire a eu lieu, en fait, et que le projet a été pour le moment stoppé, même s'il n'est pas abandonné. Donc il y a quand même une nuance à faire. C'est aussi un lieu d'accueil, en fait, pour les personnes qui en avaient besoin. Donc les personnes précaires ou les personnes qui n'avaient pas forcément de logement, etc. La ZAD était un lieu d'accueil pour ces personnes-là, avec des lieux de vie, des sleepings pour ceux et celles qui en avaient besoin. Donc ça, c'est aussi hyper important dans un monde qui est très individualiste et où la précarité augmente, etc. Savoir qu'il y a des espaces où... peu importe qui, si t'as des moyens ou pas, si t'es en besoin, tu peux y aller, en fait, tout simplement. Et puis c'était aussi un lieu, donc comme tu disais, d'expérimentation. Alors expérimentation, pour moi à échelle politique, parce que c'était ouvertement un lieu donc anarchiste où il y avait une lutte contre toutes les oppressions qui étaient expérimentées, donc que ce soit le racisme, le sexisme, etc. Donc il y avait notamment une zone en mixité choisie pour les personnes MINT, donc meufs, intersexes, non binaires et trans, pour se retrouver entre personnes oppressées par le patriarcat. Il y avait plein de réflexions collectives sur toutes les oppressions qu'on vit au quotidien, en fait, peu importe qui on est. En fait, ça, c'est des efforts collectifs qui sont pas faits, je trouve, dans la société. Alors, j'aime pas utiliser le terme société, mais c'est des efforts qui sont pas faits dans la société d'une manière générale, où dès qu'on emploie le terme racisme, on a tout un pan de la population qui s'érige et qui crie à l'horreur, etc. Enfin, non, là, il y avait vraiment plein d'efforts collectifs qui étaient faits. Après, au niveau de l'expérimentation politique aussi, c'était une zone où les habitants et habitantes essayaient de s'organiser avec le maximum d'horizontalité, donc en faisant des AG, en décidant collectivement de tout ce qui pouvait se passer sur la ZAD, en fait. Donc ça, c'était hyper... c'est hyper stimulant, en fait, de voir que ça peut exister concrètement et qu'on sort vraiment des schémas politiques classiques avec des représentants, des intermédiaires, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper chouette de voir ça être construit de manière concrète. Et puis, c'était aussi une zone... où la résilience écologique était expérimentée, c'est-à-dire que toutes les cabanes et tous les lieux de vie qui étaient construits, c'était construit collectivement avec du matériel de récupération, tout ce qu'on trouvait sur la ZAD, la plupart des trucs qu'on trouvait sur la ZAD, c'était de la récup, même les habitants et habitantes se nourrissaient avec de la nourriture de récupération. Quand j'entends des détracteurs et des tractrices dire que les ZADistes sont des pollueurs, qui laissent plein de déchets, etc., en fait, non, c'est tout le contraire de ça, parce que beaucoup de choses sur place étaient faites de manière très très résiliente. Et puis en plus, ne serait-ce que l'essence de la ZAD, c'est de lutter contre un projet destructeur. Donc le fait qu'il y ait des déchets qui soient produits sur place, ça n'a aucun rapport avec l'artificialisation et la construction d'une zone industrielle qui va générer je sais pas combien d'émissions de CO2 en plus, alors qu'on n'en a pas du tout besoin, quoi.
Avec tout ce que tu dis, comment est-ce que tu expliques que les ZAD souffrent d'une image vraiment péjorative dans l'opinion publique ?
Moi, je pense qu'il y a une méconnaissance et puis un manque d'intérêt aussi pour ces manières de lutter. Après, sur la stigmatisation politique, je pense qu'il y a le fait que ce soit une occupation illégale et que les gens ont vraiment... à cœur la propriété privée et qu'ils se disent bah, occuper une zone illégalement, c'est intolérable, etc. Alors qu'en fait, bah oui, le terrain était privé, mais en fait, le projet est destructeur. Donc, il y a toute la légitimité de se battre et d'occuper illégalement un lieu quand le projet qui va être implanté est ouvertement destructeur et réalisé en catimini sans la sensibilisation du tout de l'opinion publique, quoi. Après, je pense vraiment qu'il y a aussi une stigmatisation qui est médiatique. Je pense que les médias contribuent aussi clairement à stigmatiser les ZAD parce qu'ils viennent juste pour faire des interviews, faire des images des barricades, etc., comme si c'était quelque chose d'ultra violent, alors qu'en fait, de la violence, il peut y en avoir, mais c'est pas du tout l'essence même de la ZAD, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, alors qu'en fait, moi, j'invite tout le monde à se rendre sur les ZAD. Enfin, voilà, si vous avez la chance, l'opportunité d'aller voir une ZAD, alors de pas faire du tourisme, hein, c'est pas ça, mais d'y passer au moins une semaine, etc., pour voir comment ça se passe et comment les habitants et habitantes expérimentent plein de choses collectivement et comment ça fait du bien aussi de voir ça. Enfin, moi, voilà, j'invite tout le monde à rejoindre les ZAD et ZAD partout.
Aujourd'hui, ça fait pile 2 mois que... ça fait quasiment pile 2 mois que la ZAD du Carnet a été expulsée au moment où on enregistre cet épisode, puisque c'était le 23 mars dernier. Tu disais justement que la lutte ne s'est pas arrêtée pour autant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe depuis, à la fois sur les lieux et pour les militants et militantes expulsés ?
Donc, pour revenir sur l'expulsion, déjà, il y a eu... Il y a eu entre 400 et 800 gendarmes de mobilisés pour expulser 60 habitants et habitantes ou militants militantes de la ZAD. Donc on voit que il y a un une grosse disproportion des moyens utilisés. Il y a eu aussi 2 blindés de mobilisés. Donc je sais pas si tu te rends compte de ce que ça fait deux blindés qui arrivent pour ouvertement détruire tous les lieux de vie qui ont été bâtis de manière résiliente, etc., ouvertement pour lutter contre un projet destructeur. Enfin, c'est d'une violence terrible. Donc, comme c'était aussi un lieu d'accueil, il y a eu pas mal de gens qui ont perdu leur lieu de vie, tout simplement, qui ont perdu leur maison. Donc, c'est jamais réjouissant, en fait, de savoir que y a des personnes qui sont expulsées au début du printemps, alors que les températures sont quand même relativement fraîches, etc. Je considère qu'il ne devrait jamais y avoir aucune expulsion de nulle part. Au niveau de la répression, je pense que c'est important de faire un point sur la répression qui est subie par les militants et militantes qui luttent contre le projet industriel du Carnet, que ce soit les ZADistes ou au sein du collectif Stop Carnet, dont moi je fais partie. C'est une répression qui est tout simplement sidérante. Hein. Alors on suspecte fortement des écoutes téléphoniques de la part des renseignements généraux. Donc ça fait jamais plaisir en fait de savoir que potentiellement on est écouté par la DGSI et de savoir de pas savoir à quel niveau d'intimité ils ont accès. C'est quand même horriblement violent juste parce qu'on lutte contre un projet destructeur. Après au niveau du collectif Stop Carnet, il y a 3 membres du collectif et un soutien qui ont été mis en garde à vue la semaine dernière pour organisation d'une manifestation non déclarée quasiment un an après les faits. Donc, sachant que des manifestations non déclarées, il y en a quasiment partout en France, tous les week-ends. Donc, pourquoi ce sont les militants du collectif Stop Carnet qui sont plus visés que d'autres organisateurs de manifestations non déclarées? Bah, en fait, on pense tout simplement que notre lutte dérange ouvertement et qu'on cherche à nous décourager de lutter. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a aussi les membres du collectif Stop Carnet, enfin certaines personnes qui sont membres du collectif subissent des intimidations qui sont incroyables. Donc il y a des hélicoptères de la gendarmerie qui survolent régulièrement leurs habitations. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça peut faire d'avoir un hélicoptère de la gendarmerie qui survole ton chez-toi juste parce que tu fais partie d'un collectif qui lutte contre un projet destructeur. Une preuve assez indéniable, c'est que mes potes du collectif, ils subissent des véhicules de leur gendarmerie qui viennent stationner ouvertement devant chez eux et elles, assez régulièrement. Donc ça commence à faire beaucoup de preuves et d'intimidation, en fait, de façon à nous décourager de militer, quoi. Et c'est globalement, ça s'inscrit dans une logique de répression de la lutte écologiste qui est sidérante. Enfin, nous, ce qu'on subit au niveau du collectif Stop Carnet, c'est ce que subissent les militants et militantes de la lutte antinucléaire à Bure, par exemple, de plein de militants et militantes écologistes qui subissent des tentatives d'intimidation et puis de la répression et aussi des morts. Enfin, Rémi Fraisse, par exemple, il est mort pour avoir défendu, lutter contre un projet destructeur ouvertement. Donc, tout ce qu'on subit, ça s'inscrit dans un contexte répressif ouvertement autoritaire et qui cherche à éteindre toute dissidence écologiste et plus globalement toute dissidence politique.
Ça, on le voit aussi avec certaines lois qui viennent renforcer l'arsenal répressif mis en place, qui sont passées récemment. Je pense à la loi sécurité globale, parmi d'autres. Aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez au Carnet ?
Alors, on organise le collectif Stop Carnet et la ZAD du Carnet organisent un week-end de mobilisation festive les 5 et 6 juin. Donc, je ne sais pas si le podcast sera sorti d'ici là, mais je donne quand même la date au cas où. Donc, avec une manifestation et puis une balade naturaliste pour faire découvrir un petit peu l'écosystème autour du Carnet. Alors, il faut savoir que la zone naturelle du Carnet où il y avait la ZAD aujourd'hui, elle est fortement surveillée et protégée par un arsenal militaire complètement ahurissant, puisqu'il y a plusieurs camions de gendarmerie et des gendarmes mobiles armés jusqu'aux dents qui empêchent tout accès au site. Et là où la ZAD a notamment été expulsée pour blocage de la route départementale, en fait, les gendarmes font exactement la même chose, mais avec un tas de pierres monumentales. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, on peut même plus. Avant, c'était possible, même pendant la ZAD, etc. Tout le monde pouvait accéder à la zone naturelle du Carnet. Aujourd'hui, on ne peut même plus aller promener son chien sur la zone naturelle. C'est impossible. Tout accès est bloqué et même les journalistes ne peuvent pas venir faire des photos du dispositif, etc. Il y a une journaliste qui est allée sur la zone, qui est allée devant la barricade policière entre guillemets la semaine dernière et elle a vu son véhicule être fouillé. Et on lui a refusé de prendre toute photo. Et on lui a même demandé ce qu'allait contenir son article. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la répression et du dispositif d'intimidation qui est utilisé. Après, c'était pour revenir sur la mobilisation. Donc, les 5 et 6 juin, on organise un week-end de mobilisation. Et puis, dans tous les cas, nous, on veut l'abandon définitif du projet du Carnet. Donc, on continuera à lutter jusqu'à l'abandon définitif du projet, quoi.
Sur ce projet-là, en particulier, pour vous rejoindre ou vous filer un coup de main d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, il y a plein de moyens d'action différents. Par exemple, déjà parler de l'hérésie du projet sur, autour de soi ou sur les réseaux sociaux. Partager tout ce qui est en lien avec le projet, c'est déjà hyper bien. Après, il y a aussi une cagnotte en ligne qui a été réalisée pour nous aider à faire des impressions d'affiches, tout ce qui peut nous aider à la lutte, en fait, à les financer, parce que c'est un collectif de bénévoles. On a besoin d'argent pour continuer la lutte, malheureusement. Et puis après... d'une manière générale, enfin voilà, lutter de manière radicale contre tous les projets destructeurs, enfin ça aide notre lutte aussi et ça aide tout le monde. Donc voilà, faut pas hésiter à rejoindre les collectifs, que ce soit collectif Stop Carnet ou mais tous les autres collectifs, je pense à au collectif qui lutte contre la bétonisation des terres de Gonesse en région parisienne, ou enfin voilà, il y a plein de collectifs partout en France ou contre la bétonisation des jardins d'Aubervilliers. Il y a plein de projets qui méritent, enfin, et qui méritent une lutte radicale. Donc n'hésitez pas à rejoindre les collectifs qui participent à cette lutte.
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Là, on a beaucoup parlé environnement, mais ton livre, il est aussi très clair sur le fait que la lutte écolo, pour toi, elle s'articule avec tes engagements féministes et libertaires. Alors déjà, petit point de définition, parce que je ne suis pas sûre que le mot libertaire il soit bien approprié par tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par là quand tu dis que tu es une militante libertaire ?
En fait, libertaire, c'est un mot plus doux, entre guillemets, pour dire anarchiste. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que dès qu'on prononce le mot anarchiste, je pense que les gens ont l'impression de voir des ultra-violents. Et moi, je m'identifie pas du tout comme ça. Et en fait, l'anarchisme, c'est une lutte pour la liberté et la responsabilité de tous et toutes, et une lutte contre toutes les oppressions. Et du coup, on utilise le mot libertaire pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, pour que ce soit plus doux.
Et alors, du coup, pourquoi, pour toi, on ne peut pas séparer cette lutte écolo de la lutte libertaire, anarchiste, féministe, antiraciste, etc.?
Parce que je pense que toutes les violences sont liées, que ce soit les violences économiques, les violences racistes, les violences sexistes, la violence écologique, pardon. Toutes les oppressions sont liées. Et du coup, pour moi, ça a du sens d'essayer de me battre au maximum contre toutes les oppressions en même temps. Et du coup, c'est pour ça que je m'identifie au sein de l'anarchisme, parce que c'est le système qui me correspond tout simplement le mieux et que ça m'évite de me mettre dans une case comme étant soit féministe, soit écologiste. Non, pour moi, c'est une lutte contre tous les systèmes d'oppression, y compris de racisme, même si je suis blanche. J'essaye de partager mes privilèges et de me dire que j'utilise mes privilèges de femme blanche sans problème d'argent, valide, etc., pour me battre contre toutes les oppressions qui détruisent des personnes qui sont plus vulnérables que moi.
À titre perso, je trouve ton engagement assez impressionnant. Enfin voilà, que j'en sois témoin sur les réseaux sociaux ou à discuter là avec toi. Et je me demandais ce qui t'avait donné la force quelque part de t'engager de cette manière. Je précise un peu ma question, je la pose parce qu'en fait j'ai l'impression que beaucoup de personnes se sentent freinées dans l'engagement, par exemple, parce qu'elles ont l'impression de ne pas être légitimes à prendre la parole sur certains sujets.
Alors, je pense que déjà qu'il faut arrêter avec cette idée de légitimité. Je pense qu'on est tous et toutes légitimes pour agir, quel que soit notre niveau de cheminement. Et puis après, on apprend sur le tas. Enfin, moi, je me sentais pas du tout légitime non plus pour faire quoi que ce soit. Et puis après, j'ai appris avec plein de gens à essayer de devenir une meilleure humaine. Donc c'est cool, en fait. Enfin, moi, j'incite plutôt les gens à rejoindre des collectifs et à rejoindre des luttes de manière collective, parce que ça a changé toute une perception, toute ma perception du monde, et ça a vraiment changé ma vie, quoi. Et j'ai rencontré plein de personnes extraordinaires. Enfin, voilà, ça m'a permis aussi de sortir de l'indignation permanente de laquelle on a du mal à sortir parfois en étant tout seul ou toute seule derrière son écran, à voir l'actualité anxiogène défiler, etc., et à pas savoir comment agir. Mais en fait, agir concrètement et radicalement, ça donne un pouvoir. Alors, j'aime pas le terme pouvoir, mais ça donne une puissance qu'on n'imaginait pas. On n'imaginait pas avoir avant, quoi. Donc c'est chouette.
Toi, au fil de cet engagement, comment est-ce que tu as appris à composer avec les personnes qui sont pas d'accord avec toi, que ce soit IRL ou dans ta vie en ligne?
Alors déjà, soit j'essaye de leur expliquer mon point de vue et de leur donner des faits écologiques et sociaux, soit si ça fonctionne pas, je les bloque. parce que y a beaucoup de gens qui sont très malveillants, qui voilà partent dans l'insulte sans argumenter du tout, enfin voilà, qui utilisent des rhétoriques ouvertement d'extrême droite du type islamo-gauchiste, enfin voilà, tout un tas d'insultes qui sont insupportables. Du coup, enfin voilà, moi je soit enfin j'essaye d'expliquer, et puis si je vois qu'à un moment donné ça fonctionne plus et que voilà la stigmatisation est trop importante, ben en fait j'arrête de discuter ou je bloque les personnes de façon à me protéger.
Dans l'intro de ton livre, tu parles, et je te cite, du fait que notre capacité d'adaptation au pire et notre manque de capacité à réfléchir à long terme sont souvent des freins à l'action. J'aimerais bien que tu expliques un petit peu ce que tu veux dire par là. Parce que je pense que c'est une phrase qui est assez parlante.
C'est une bonne question. en fait, je pense que ce que je veux dire, c'est que... On a trop tendance à miser sur le futur, etc., et à se dire que les conséquences, elles vont être les conséquences du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, elles vont être futures, alors qu'en fait, elles ont déjà eu lieu maintenant, et qu'en fait, on a aussi tendance à se résigner assez facilement et à sombrer dans le fatalisme, en fait, en se disant bah voilà, de toute façon, comme je l'ai mis dans mon livre, à quoi bon, voilà, c'est trop tard, on peut rien faire, et puis c'est pas à ma petite échelle à moi que j'essaierai de, que je peux faire changer les choses, etc. Alors qu'en fait, c'est faux. On a tous et toutes les capacités, plus ou moins les capacités de faire des choses, et puis de s'engager, et puis d'essayer de contribuer à un changement de système qui est vital et nécessaire, quoi.
Est-ce que pour toi, justement, ce fatalisme, c'est quelque part... un des plus gros dangers qui pèse sur la planète ou enfin dans le combat écolo en règle générale.
Alors je sais pas si c'est le fatalisme ou plus l'individualisme d'une manière générale. Je pense qu'on vit dans des sociétés qui sont très enfin occidentales, qui sont ouvertement individualistes, et enfin voilà, on a été éduqué en privilégiant l'individu par rapport au reste, et du coup en fait il faut sortir de tout ça pour sortir du système dans lequel on est, quoi, tout simplement.
Et toi, comment tu fais quand tu te sens un peu trop désespéré par l'impression que ça n'avance pas ou la répression à laquelle vous faites face, comment tu luttes contre ce sentiment là?
J'essaye tant bien que mal de prendre du temps pour moi, même si c'est pas facile, et puis de penser à autre chose, même si c'est pas facile non plus. Je bois des bières, je vois mes potes, j'essaye d'écouter de la musique, alors lire quand on n'est pas en très bonne santé mentale, c'est un peu compliqué. En tout cas, de mon point de vue, après, j'ai mes animaux, j'ai mon potager et tout, j'essaye de me concentrer sur des choses qui sont positives et qui me font du bien. Et puis voilà.
Je fais de même, donc je comprends. Une dernière question avant qu'on arrive à la conclusion de cette interview. Dans ton livre, tu utilises aussi une expression, tu dis que tu te définis comme une pessimiste combative. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire tout simplement que je suis pas très optimiste pour la suite, en fait, tout simplement, que ce soit... parlant du dérèglement climatique ou l'effondrement de la biodiversité ou globalement de la privation de liberté. Enfin voilà, je pense qu'on est dans un système politique qui est fascisant. Avec un autoritarisme montant, etc. Donc je suis pas très très optimiste politiquement pour la suite. Et du coup, je me dis que, enfin, je préfère être pessimiste, mais me battre pour que toutes les raisons pour lesquelles je me bats soient minimisées, plutôt que de rester optimiste et dans ma bulle individuelle et puis de me dire ah ben non mais ça va s'arranger et puis d'attendre que ça arrive tout seul, quoi.
Merci beaucoup Béné. On va essayer de conclure sur une note un peu plus légère avec donc la question que tu as choisie dans la liste qu'on propose traditionnellement aux invités pour conclure. Toi, tu as choisi: quel est le film que tu as regardé plusieurs fois, genre vraiment beaucoup, quoi ?
Alors, je suis pas très cinéphile, mais par contre, s'il y a bien un film que j'ai regardé un nombre incalculable de fois, c'est Dirty Dancing. Donc, j'espère que voilà, les auditeurs et auditrices de ton podcast pourront se reconnaître éventuellement là-dedans. Moi, ça fait partie des films que je peux regarder un nombre incalculable de fois sans me lasser et qui me fait toujours autant de bien. Donc, voilà, si vous vous sentez mal, regardez Dirty Dancing et ça ira tout de suite mieux.
Super conseil, je vais le noter. Merci beaucoup.
Merci à toi, c'était super chouette. Donc,
on peut te retrouver sur ton compte Instagram, donc Mademoiselle Béné, mais qui s'écrit pas Mademoiselle en toutes lettres, c'est M2LEBENE, si je ne me trompe pas.
C'est M-E-2-L-E-B-E-N-E.
Voilà, ok, merci d'avoir corrigé.
Il faut vraiment que je change ce pseudo.
Et on peut évidemment acheter ton livre, donc La Révolution du Potager, Manuel d'écologie individuelle et collective, aux éditions La Plage. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.